page arrachée au journal de Michel Léris, lue par Jean-Louis Trintignant. 1943.
8 avril. Rêve de cette nuit. Sur une sorte de terrasse ou d'aqueduc, car il y passe une canalisation d'eau, je manie une statue de fer, objet religieux exotique qui ressemble à une enseigne de nos pays. Cette statue comporte, entre autres accessoires, une série d'objets également en fer, comme une enfilade de breloques à l'échelle près, dont je me dis qu'il représente le chapelet des îles visitées par Ulysse. Ces objets de formes diverses sont fixés de place en place et à intervalles réguliers le long d'une seule chaîne. Cette chaîne ou chapelet, je la laisse tomber dans la canalisation d'eau qui est à ciel ouvert, de sorte qu'il me faut la repêcher. Le décor change. Je suis maintenant dans un immense hall souterrain, à voûte très haute, sorte de voûte d'église, construite dans le goût bizarrement anachronique de Saint-Eustache. Vers ma droite, le hall se prolonge en grotte très vaste, dont l'entrée est à demi fermée par de grands lierres pendants, analogues à ces portières de verroterie qu'on voit dans maintes boutiques ou maisons du midi et dont le rôle est d'empêcher les mouches de pénétrer à l'intérieur de la pièce. C'est dans ce hall souterrain que passe la canalisation d'eau, sorte d'égout ou de bourbier dans lequel il me faut fouiller. Je m'y prends d'une seule main, relevant mon poignet de chemise et ma manche de veston afin de ne pas me salir. Je suis très dégoûté de devoir fouiller dans cette boue à l'aveuglette. J'ai peur que ma main entre en contact avec quelque bête ou quelque chose d'innommable. Et en effet, à peine suis-je en train de fouiller que je touche quelque chose de vivant. C'est un crapaud couvert de boue au point d'être presque informe. Puis je retire du bourbier quelques chaînettes de métal, mais pas la chaîne que je cherche. Continuant à fouiller de la main gauche, c'est de celle-là que je me sers, comme s'il était moins sale de souiller ma main gauche que ma main droite. Je prends entre mes doigts une sorte de ver de terre ou de très mince serpent et je le sors du bourbier. Quelqu'un me dit alors que ce ver ou serpent est allemand. Le hall est en effet situé en pays occupé et tout ce qu'il renferme est de ce fait allemand. Comme je n'ai pas encore retrouvé les objets que je cherchais, il va me falloir encore fouiller. J'envisage cette perspective avec dégoût et inquiétude, car Dieu sait sur quoi je vais encore tomber. Dimanche 11 avril. Interprétation du rêve de l'autre nuit. Le contact avec ce qu'il y a d'intolérablement sordide, crapaud vert ou serpent qui a une nationalité, dans les événements présents me trouble. Tandis que je me tiens penché sur mon passé, canalisation d'eau s'avérant bourbier, et tandis que j'y fouille d'une façon obstinée et maniaque, recherche sur quoi s'édifie aujourd'hui mon travail littéraire, architecture du hall. La statue de fer pourrait être moi-même, telle que je me transfigure en écrivant. S'il y manque quelque chose, c'est qu'aujourd'hui je me suis interrompu dans mon travail, ayant depuis un certain temps perdu le fil, en raison sans doute de ce qu'ont d'oppressant les événements. La grotte à portière de lierre représente tout ce qui est l'ailleurs, abîme secret de la nature, mort, destin, etc. 4 mai, Paris. Sortant du musée de l'Homme vers 18h, vu, embusqué dans un couloir du métro Trocadéro, un homme qui m'a fait presque peur. Corpulent et rouge, à chapeau gris, avec grosses moustaches retroussées, tellement agent en bourgeois que j'ai regardé attentivement sa moustache pour voir si elle n'était pas postiche. Même peur que, lorsque j'étais enfant, j'éprouvais devant les déguisés du carnaval. Vrai agent en bourgeois, mystificateur grimé, ou personnage quelconque. Je me le suis demandé, ne pouvant me défendre de le regarder comme une manière de spectre ou de plaisantin macabre qui se serait amusé, idée perverse entre toutes, à adopter un tel déguisement, si adéquat au temps qui court. Juin. Vu hier soir pour la deuxième fois les mouches de Sartre. Inventions qui me paraissent essentielles. L'offrande d'ordures à Jupiter. Le surnaturel auquel le public adhère parce que, sur scène, il est perpétuellement contesté. Électre violette nausière, les érinies sirènes. 10 octobre. Parfois je me dis que les canvélaires seront les seuls survivants de toute cette histoire, comme ces personnes condamnées depuis longtemps par les médecins et qui, tout compte fait, enterrent tous les autres membres de leur famille. 12 novembre. La réalité humaine est dépassement perpétuel vers une coïncidence avec soi qui n'est jamais donnée. Sartre, L'être et le néant.
1944.
28 janvier. J'imagine, sans intention d'en tirer parti, le thème suivant pour un conte. Dans une ville opprimée, les habitants finissent par être obligés à un choix positif entre faire partie du peloton d'exécution et faire partie des fusillés. Il n'y a plus en effet que ces deux groupes face à face. 20 mars. Demain à 11h à l'église Saint-Roch, service religieux à la mémoire de Max Jacob, mort au camp de Drancy. 2 mai. Après la mort de Deborah Lifschitz au camp d'Auschwitz. 17 mai. Rêve. Je dois être fusillé. Cela se passe avec l'accompagnement d'une espèce de fiesta comme celle de la cour de Rohan, de Taverny ou celle prévue pour les générales de Camus et de Sartre. Je fais mes adieux à Z, très déchirant. Je dis adieu ou la cherche pour lui dire adieu au castor. Je ne suis pas gardé, apparemment tout à fait libre. Devant mes amis qui font la haie, comme pour l'arrivée du Tour de France, je me rends accompagné de Z qui m'escorte comme un enfant qu'il faut rassurer jusqu'à une paroi rocheuse, très irrégulière et couverte d'aspérités qui est le mur d'exécution. Je m'y adosse de toutes mes forces comme si je voulais m'y incruster, moins pour disparaître que pour y puiser la rigidité, non physique mais morale, c'est-à-dire le courage. On entend des pas de chevaux et peut-être un bruit de troupe en marche. C'est le peloton d'exécution qui arrive. Je suis soudain soulevé de panique. Sans fondre mon désir de faire bonne figure, puis c'est la colère. Et je dis à Z que je ne me laisserai pas tuer comme cela. Je me précipite alors en courant et plonge tête baissée dans une allée en contrebas, parallèle à la haie de mes amis spectateurs. La chute m'éveille, ou plutôt me fait passer dans un autre rêve où j'explique à quelqu'un ce moyen que j'ai de faire pour finir mes rêves par une chute volontaire. Puis je repasse dans mon esprit ce rêve, j'en refais certaines parties avec d'autres détails. Dans cette seconde version, il est question par exemple d'un rectangle de papier blanc qu'on donne à ceux qui vont être exécutés et sur lequel il leur est permis d'inscrire leurs dernières paroles. Ce rectangle de papier blanc sera collé sur leur bouche, à la manière d'un bâillon au moment de l'exécution. 20 mai. Rentrant à 11h40 avec Z en vélo, après dîner chez Jean-Louis Barrault, rencontré devant notre porte un type à casquette de 30-35 ans, saoul ou un peu sonné, ou peut-être les deux, qui, se donnant pour un gars de Schnorr, nous a demandé le chemin pour la cité perdue, la cité audacieuse. Tout cela sur le plan de la cordialité. Z pense que c'est un type des péniches. Par ailleurs, je songe en y réfléchissant que par la cité perdue, la cité audacieuse, il doit entendre la ville d'Is. Un marinier ivre en quête de la cité engloutie. 29 mai. Lapsus de bataille hier dans une discussion au cours de laquelle il me traita d'idéaliste et de kantien. L'apéritif catégorique. Personnage déguisé, personnage non déguisé. Le castor, Lucienne Salacrou, Zette ne sont pas des femmes déguisées. Janine, Françoise, elle, les sœurs Kozakiewicz, Pauline sont des femmes mal déguisées. Sylvia est une femme astucieusement déguisée et Dora une personne esthétiquement déguisée en son portrait par Picasso. Difficulté beaucoup plus grande de faire le même classement pour les hommes, sans doute parce que le déguisement est chez eux moins extérieur. Cependant, Picasso et Reverdy ne sont pas des hommes déguisés. Braque est un homme admirablement déguisé. Tic de langage observé cet an dernier chez Dora Maar. Sous couleur de plaisanterie, elle a, paraît-il, commencé à faire cela pour imiter par moquerie Marie-Laure de Noailles. Elle introduit dans maintes de ses phrases l'incise « dis-je ». En réalité, elle doit faire cela par besoin d'une perpétuelle référence à elle-même. 11 juin. J'écris pour qu'on m'aime, disait l'autre soir Jean Genet. Mardi 15 août. Assomption. Affiche appelant tous les hommes valides à rejoindre les forces françaises de l'intérieur, FFI. En ce qui me concerne, j'ai souscrit, il y a déjà quelque temps, un engagement dans les milices patriotiques organisées par le comité du théâtre du Front National de Libération. Engagement souscrit sous le nom de Gérard, numéro matricule 1092, par l'intermédiaire de Salacrou. J'attends par ailleurs une liaison pour constituer un Front National de Libération au Musée de l'Homme. Déjeuner chez Salacrou avec Sartre, Le Castor, Zette et Merleau-Ponty. Zette et moi nous rentrons dîner. Salacrou parlant de l'insurrection. Cela ne doit pas se faire 8 jours avant, mais 1 heure avant. Sous-entendu, avant l'arrivée des troupes régulières. Allusion à la situation des patriotes de Varsovie qui commence à être désastreuse. J'opine. Pas d'agents dans les rues. Ils sont en grève depuis ce matin. Mercredi 16 août. Zette me raconte le déménagement de l'Oberquartier du 29 rue d'Astorg. Spectacle de Paris sans agents, sans Allemands visibles et encore sans troupes alliées. Par un coup de téléphone de ma nièce, j'apprends que mon frère Pierre a quitté Paris avec le plus jeune de ses fils pour aller rejoindre un groupe FFI, opérant, je le saurai plus tard, du côté de Château-Thierry. Son autre fils doit partir le lendemain matin pour la même destination. Ma nièce et moi, nous allons chez ma mère et nous la décidons à quitter son appartement du 102 rue Erlanger, car nous pensons que les troupes alliées entreront par la porte de Saint-Cloud et à s'installer chez ma nièce, 23 quai Voltaire. Jeudi 17 août. Accompagné de ma nièce, je vais en fin d'après-midi chercher ma mère et je l'amène à bicyclette, elle dans une remorque, 23 quai Voltaire. Circulent dans les rues de nombreux véhicules allemands. Les gens regardent dans la direction de Meudon des colonnes de fumée provenant des destructions de matériel effectuées par les Allemands. Explosions et canonnades. Après dîner, nous allons, Zette et moi, voir ma mère 23 quai Voltaire. Vers le moment où nous sommes pour partir, bruit de fusillade, rafale de mitraillette. Nous attendons un peu, puis nous partons, car le calme a l'air d'être revenu. Dehors, cela tiraille encore un peu, mais de l'autre côté de la Seine. Lorsque nous passons devant la rue Guénégo, coup de revolver venant de cette rue. La balle passe tout près de nous. Quelques jours après, lorsque se sera manifestée l'armée des toits, je penserai que ce coup de feu avait été tiré par un provocateur. Vendredi 18 août. Zette me raconte que son amie Jeanne Chénuet a assisté à la liquidation des stocks de la Gestapo rue des Saussées. Lorsque la foule devenait trop dense, les Allemands tiraient en l'air pour se dégager. À côté de chez nous, l'immeuble des transports communs de la région parisienne, la TCRP, est occupé par les grévistes. Vers le soir, l'un d'eux fait une harangue. « Camarades !» Je ne l'entends pas moi-même, c'est la petite Jeannette qui nous raconte cela. L'on a appris que les croque-morts, puis les boueux s'étaient mis en grève. Samedi 19 août. Revenant en vélo selon ma route habituelle, quai de la rive gauche à partir de l'Alma, je trouve à la hauteur du pont des Invalides un Allemand en armes qui détourne la circulation par la rive droite. Arrivé au pont de la Concorde, je m'y engage pour revenir sur la rive gauche. Sur le trottoir de droite, juste à l'entrée du pont, il y a une grande flaque de sang. À ma gauche, une voiture militaire arrêtée, remplie d'Allemands, avec casque et armes prêts à tirer. Poursuivant ma route, je vois à l'angle de la rue de Solferino quelques personnes rassemblées autour d'un cadavre de civil. Un homme en complet gris, avec un chapeau mou gris lui recouvrant la face. Un peu plus loin, un cycliste qui me croise me demande si l'on peut passer. Sans m'arrêter, je lui réponds que la circulation est libre jusqu'au pont de la Concorde. Arrivant à proximité de chez moi, j'aperçois sur l'autre trottoir une patrouille d'Allemands casqués et armés qui va dans la direction du pont Saint-Michel. Sur mon trottoir, marche dans la même direction un Allemand également casqué et armé qui, passant devant la TCRP, montre les drapeaux en parlant avec colère. Pendant le déjeuner, coup de téléphone de Salacrou pour me convoquer à la Comédie-Française, dont il était convenu que nous devions l'occuper, et me demander de prévenir Sartre et Jacques Bost. Je vais chercher Sartre à l'hôtel de la Louisiane où il se trouve avec le castor et Sorokine. Sartre, le castor et moi, nous revenons à la maison. Coup de téléphone à Bost pour lui donner rendez-vous à la Comédie-Française. Il nous y rejoindra avec Chauffard. Coup de téléphone de Rouget, gars du Trocadéro, qui est en principe rattaché à notre petit groupe. Pensant que nous ne ferons rien à la Comédie-Française, je lui dis qu'il est inutile qu'il se dérange. Dans les jours suivants, après mains efforts, il trouvera à s'employer dans le quartier Saint-Séverin et participera à des attaques de tanks sur lesquelles on projette des bouteilles inflammables du haut des toits. À la Comédie-Française, où Pierre Dux et Julien Berthaud dirigent les opérations, de nombreux acteurs sont présents, entre autres Yonel, dont je fais ainsi la connaissance et avec qui je parle de Raymond Roussel. Il est convenu qu'il récitera avec Berthaud et Marie-Belle des poèmes de Max Jacob lors de l'émission radiophonique prévue par Jean Lescure pour Après la Libération. Dans le courant de l'après-midi, il est vaguement question que notre petite équipe aille en formation de combat chercher des armes place de la République. D'armes, nous n'avons à peu près que 4 revolvers, je crois, dont l'un est enrayé et un nombre dérisoire de cartouches, peut-être une demi-douzaine de coups pour chaque arme. Dans un couloir attenant au foyer dans lequel nous nous tenons, détonation. Berthaud, vérifiant le fonctionnement d'une des armes, a fait partir le coup. À défaut d'armes, il y a profusion de pharmacies, paquets de pansements et fioles diverses s'alignent sur un bureau ancien. Sartre et moi avons fait sans encombre le trajet de chez moi à la Comédie-Française. Peu de monde dans les rues car le bruit court qu'il a été recommandé aux gens par la radio de Londres de ne pas sortir de chez eux passé 3 heures. Après 3 heures, nous n'apercevons plus en effet du théâtre français que de rares cyclistes. Dans la rue de Rivoli, à peu près vers la rue de l'Arbre Sec, un poste de Croix-Rouge. Du théâtre français, nous téléphonons à la maison pour dire que nous sommes bien arrivés. Zette, le castor ainsi que Sorokine sont à la maison avec Jeanne Chénuet et la petite Jeannette. Les attaques de véhicules allemands commencent sur le quai dès le début de l'après-midi. Le castor et Sorokine préférant être au Welcome Hotel, à l'angle de la rue de Seine et du boulevard Saint-Germain, coin à ce moment-là plus calme que le nôtre, Zette va les accompagner. C'est ce que j'apprends téléphonant à Jeanne pour avoir des nouvelles. Elle me dit par ailleurs que c'est épouvantable, que les combattants de la résistance sont installés sur le balcon de la maison à côté, qu'on se bat violemment, qu'on a pris des otages. Du moins, c'est ce que je crois discerner dans un flot de paroles. Je raconte cela à Sartre et nous sommes fort inquiets. Un peu plus tard, le castor téléphone du Welcome Hotel pour nous conseiller de ne pas rentrer. De notre côté, nous lui conseillons, ainsi qu'à Zette, de ne pas bouger. Mais Zette déclare qu'elle va se rendre à la maison pour voir ce que deviennent Jeanne et Jeannette, puis qu'elle retournera au Welcome. Je téléphone au 53 bis un certain temps après et j'apprends que Zette n'y est pas arrivée. Je dis à Jeanne de lui conseiller de ne pas repartir au Welcome, le trajet étant dangereux, mais de rester au 53 bis. Le téléphone raccroché et après réflexion, je pense que ce conseil est mauvais. Car si j'en crois à ce que m'a dit Jeanne lors de notre première conversation, il y a risque de représailles allemandes sur notre bloc de maison. Pendant un certain temps, nous sommes dans l'inquiétude. Un coup de téléphone à Sorokin, nous ayant appris que Zette et le castor l'ont quitté il y a longtemps déjà pour aller quai des Grands Augustins. Enfin, un coup de téléphone de Zette nous apprend qu'elle est bien arrivée au 53 avec le castor, après avoir été longuement bloquée dans la rue de Seine et qu'elles ne bougeront plus d'ici le lendemain. En fin d'après-midi, Camus fait savoir à Sartre qu'il l'attendra à Place des Victoires le soir même ou le lendemain à 11h. Nous pensons qu'il s'agit de son fameux projet d'aller occuper les locaux de l'intransigeant, projet que Sartre et moi avions abandonné au moment où nous avions décidé d'adhérer à la formation militaire du comité du théâtre du Front National de Libération. Je dis à Sartre qu'en ce qui me concerne, mon jeu est fait. Participation à l'occupation du théâtre français en attendant d'obtenir la liaison que j'ai demandée avec le Front National de Libération des musées nationaux et de pouvoir organiser quelque chose au musée de l'Homme. Et que je n'ai pas l'intention de tenter ma chance ailleurs. Dîner dans un bistrot de marché noir de la rue Montpensier, avec Salacrou, Sartre et la vedette de cinéma Madeleine Robinson. À côté de nous dînent Julien Berthaud, Lise Delamarre, sa sœur, et un jeune acteur Tony Taffin. Bost et Chauffard sont restés aux Français, d'où Berthaud et Dux ont décidé de licencier les gens, les convoquant pour le lendemain matin. Entre autres gens qu'il y avait ce jour-là aux Français, l'acteur de cinéma Daniel Mendaille, que je me rappelle avoir rencontré lors de mon passage à Addis Abeba, à l'hôtel Glaise, mais dont je ne me suis pas fait reconnaître. Après le dîner, nous allons tous quatre coucher chez Salacrou, dans son appartement de la rue de Montpensier. Belle vue sur les jardins du Palais Royal, tout à fait calme. Fusillade, avec des balles traçantes, du côté de la Banque de France. Nous buvons du vin rosé. Pas d'électricité. Dans l'obscurité, Madeleine Robinson nous chante « Sur les marches du palais ». L'insurrection n'est plus qu'une toile de fond à une soirée franchement agréable. D'une grande lueur d'incendie aperçue dans la direction de chez moi, j'apprendrai le lendemain qu'il s'agissait d'un camion allemand rempli d'essence qui brûla contre l'hôtel Notre-Dame.
C'était « Pages arrachées au journal de Michel Léris », choisi et présenté par Jean Jamant, lu par Jean-Louis Trintignant et enregistré au Festival d'Avignon en 1992 par Monique Burguière et François Connac, dans une réalisation de Claude Guerre. Remise en onde, Sébastien Labarre et Claude Guerre, assistant à la réalisation Félix Levacher avec la voix de Julie Pouillon. Le journal de Michel Léris est publié aux éditions Gallimard.